Bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Et donc ce soir, on voit la deuxième partie du chapitre 3 et qui est donc consacrée à des instruments complémentaires qu'on n'a pas encore vu. Donc on l'a vu partiellement, le galvanomètre, les microphones, les haut-parleurs et un petit paragraphe aussi sur les relais électromécaniques. Alors j'en ai aucun, je m'aperçois que j'en ai pris aucun. Ah si, j'en ai là-bas. Donc je prends ma boîte, j'en ai là, donc je vais pouvoir vous en montrer à la fin, puisque c'est à la fin dont on va parler de ça. Voilà, on commence par les galvanomètres. Alors, les galvanomètres, c'est un instrument de mesure très ancien, en fait, puisque il a été, c'est l'instrument de mesure par définition qui a été utilisé pour mettre en évidence le courant. Donc ça, c'est dès finalement l'expérience d'Oersted, puisque l'expérience d'Oersted, je le rappelle, c'est un fil. Un fil conducteur, donc, et Oersted a remarqué que l'aiguille de l'aimant de la boussole, lorsqu'il y avait du courant dans un fil, se mettait perpendiculaire au fil, alors qu'auparavant elle indiquait le nord, hein, par définition. Lorsque l'on fait passer un courant à proximité de la boussole, la boussole dévie et se met perpendiculaire au fil, puisque c'est dans le fil que passe le courant. Voilà. Et si on inverse le courant dans le fil, la boussole fait un 180 degrés, donc change de sens. Voilà, donc c'est pour aussi montrer qu'il y a en plus un sens au courant. Et donc, cette propriété, ça a été repris dans les galvanomètres. Alors, Luigi Galvani, là, dont j'ai mis le nom, enfin la photo, la trombine, le tableau, puisque à l'époque c'était pas des photos, c'était des tableaux. Et donc, alors, il s'intéresse plus précisément, puisqu'en fait c'est 1791, donc c'est bien avant l'invention finalement de la pile, et là, en fait, c'est que de l'électricité statique, et c'est lui qui démontre que avec de l'électricité statique, on fait bouger les cuisses des grenouilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expérience absolument pitoyable. C'est-à-dire qu'on prend une grenouille, on lui retire la peau, on met sur les muscles des pattes de la grenouille des petits fils et on fait passer du courant électrique. Mais à l'époque de Galvani, évidemment, c'était sous forme d'électricité statique. Et donc on voit le muscle qui bouge un petit peu. Donc c'était très sympathique. Voilà. Mais l'origine du mot galvanomètre, c'est donc cette expérience de Luigi Galvani, et qui d'ailleurs, cette expérience a été reprise par Volta quand il présente la première fois sa pile, parce que quand on lui demande à quoi ça va servir, ça sert à faire en sorte que l'expérience de Galvani, on puisse la faire beaucoup plus facilement. Donc vous voyez, un petit peu, donc on sait, voilà. C'était une époque où on découvrait, et donc on ne connaissait pas, enfin on ne savait pas ce que l'on avait découvert finalement. Donc le galvanomètre, c'est un peu la même idée. Un galvanomètre, alors j'en ai quelques-uns, je vais vous montrer après, je vais vous faire une belle... Alors j'en ai quelques-uns que je vais vous montrer... avec ma belle webcam. Voilà. Donc je les mets devant la webcam. Donc ce sont des vieux, des très vieux galvanomètres. Donc celui-là, il est complètement mort, parce que vous voyez, le ressort, puisqu'il y a un ressort hein, qui permet de ramener à zéro, il est mort. Hein. Le ressort, c'est le... Alors, je ne sais pas si on le voit. Il y a un tout petit ressort. Voilà. Que l'on doit voir, qui est en forme de spirale, qui est vraiment aux bornes ici de... Je ne sais pas si on le voit. On le voit, je ne sais pas si on le voit vraiment. Je vais peut-être faire un peu de mise au point avant. Hop, 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 hop. Voilà, si on le voit à peu près, c'est ce qui est un petit peu, enfin le fil de cuivre là que je touche avec mon stylo qu'on voit. Vous devez le voir un peu qui bouge. Voilà. Donc ça, c'est le fil de cuivre qui est donc un ressort de rappel en spirale. Donc le ressort ramène à zéro, et quand il y a du courant qui passe ici dans mes conducteurs, là, hein, qui sont là, eh bien ça fait dévier ici le courant, et vous remarquez que l'aiguille, elle ne peut faire que 90 degrés. Donc en fait, 90 degrés, elle se met... perpendiculaire finalement au fil qu'il y a derrière. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc toutes les aiguilles de galvanomètre, là, ça fait 90 degrés au maximum. Et il y a donc un ressort de rappel qui vous renvoie finalement sur la valeur 0. Voilà, plus le courant est important, évidemment, plus la force est importante et donc plus l'aiguille se déplace. Voilà. Quand on regarde derrière, je ne sais pas si on voit vraiment, mais il y a la bobine qui est derrière, là-dedans. On la verra mieux tout à l'heure quand on fera une autopsie d'un voltmètre un peu plus précis. Et puis là, bon, voilà, un autre du même style. Voilà. Un bon vieux voltmètre. Alors avec là il y a la vitre au-dessus, donc il y a des reflets un petit peu un peu gênants, alors que l'autre j'ai retiré la vitre, et là on voit rien du tout parce qu'il est bien protégé dans une carcasse, donc on voit rien du tout. Tout à l'heure on fera une autopsie d'un Matrix, donc je vous en montrerai un peu plus. Je reviens sur mon PDF pour vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Donc le galvanomètre, donc c'est, alors ça s'appelle précisément un galvanomètre à cadre mobile. C'est le terme scientifique. Ces appareils en fait sont constitués d'une bobine. Donc la bobine, elle est sur le cadre. Un cadre mobile, donc c'est cette bobine qui est montée sur le cadre mobile. Sur ce cadre mobile, on met une aiguille pour mesurer la déviation. Et derrière cette aiguille, on met un cadran gradué qui permet de lire la mesure. Et surtout, on a aussi un aimant qui va permettre de positionner la bobine par rapport à l'aimant. Voilà. Et donc c'est un peu la même idée que Galvani, sauf qu'au lieu d'un fil rectiligne, là on va utiliser une bobine, mais on a vu quand on avait fait les bobines qu'un fil rectiligne, finalement c'est quelque part aussi une bobine, tout au moins, il y a un effet inductif comme dans une bobine. Si ce n'est que le champ magnétique n'est pas à l'intérieur des spires, mais il se trouve à l'extérieur du fil conducteur. Voilà. Et donc, les galvanomètres ont deux caractéristiques qui sont importantes. et qui les caractérise justement, c'est d'une part sa résistance interne, donc que l'on, alors comme pour les piles, hein, on va appeler ça RI comme résistance interne, alors souvent d'ailleurs avec un R minuscule et I minuscule, et non pas avec un R majuscule, mais bon, vous pouvez avoir les... Ça n'empêche que quand vous voyez RI, ça veut dire résistance interne, évidemment c'est en ohms, c'est de l'ordre de la dizaine d'ohms pour le galvanomètre. Et puis la deuxième caractéristique, qui est de loin la plus importante, c'est l'intensité de déviation maximum. C'est-à-dire qu'on a vu que le principe du galvanomètre, c'est que c'est l'intensité qui fait bouger l'aiguille. Eh bien, on va mesurer quelle est cette intensité de déviation maximum. Évidemment, si on met plus d'intensité, ça ne sert à rien puisque l'aiguille, elle est au taquet. Enfin, elle a fait son 90 degrés, donc ça ne sert à rien de mettre plus, l'aiguille n'ira pas plus loin. Tout ce que l'on risque de faire, c'est de cramer l'instrument de mesure. Voilà. Et en règle générale, pour les instruments de mesure un peu de qualité, on doit avoir cette intensité de déviation maximum qui est avec un courant très faible. En règle générale, c'est beaucoup moins que le milliampère, et pour les instruments tout au moins pas, enfin, presque professionnels, c'est de l'ordre de 50 microampères. Donc c'est vraiment des très petites valeurs. Et donc avec 50 microampères, eh bien, on arrive à faire dévier complètement l'aiguille du galvanomètre. Voilà. Le galvanomètre en lui-même, comme il a une résistance interne assez faible de l'ordre de la dizaine d'ohms et une intensité de déviation maximale très faible aussi, on va avoir finalement, avec juste un galvanomètre, on ne va pouvoir lire que des intensités très faibles, hein, 50 microampères en l'occurrence si on a ce type de matériel, donc c'est donc des faibles intensités et puis aussi de faibles tensions, puisque si j'ai peu d'intensité et une résistance faible, bah, automatiquement ma tension ne sera pas énorme non plus. Voilà, donc le galvanomètre en tant que tel ne sert pas à grand chose. Mais on n'est pas au bout de notre inventivité et on va trouver des astuces pour pouvoir lire des intensités plus grandes et des tensions plus grandes. Deuxième point qui est un peu embêtant, c'est que le galvanomètre ne mesure que des valeurs en continu. Si vous lui mettez un courant alternatif, il ne va pas savoir dans quel sens aller, parce que finalement, quand on regarde un galvanomètre, il y a une très forte inertie, parce que l'aiguille, avec l'histoire du ressort, là, elle met beaucoup de temps à se déplacer. Donc, même si vous lui mettez du 50 Hz, eh bien, l'aiguille, elle ne va absolument pas frétiller, elle va bouger, elle ne va absolument pas bouger. Et comme c'est du courant alternatif, vous allez avoir autant de courant dans un sens que dans l'autre, donc moralité, votre aiguille, elle ne va pas bouger. Donc, un galvanomètre tel que, enfin, sans autre artifice autour, ne mesure que des valeurs continues et moyennes. C'est-à-dire que si vous mettez du courant continu, mais de valeurs variables, hein, de l'ABF par exemple, ou de la HF, votre galvanomètre ne va mesurer que la tension moyenne. Et par conséquent, si vous utilisez un galvanomètre en tant que wattmètre, eh bien, vous allez avoir une puissance moyenne, et en tout cas pas une puissance en crête. Si vous voulez voir une puissance en crête, il faut que vous ajoutiez quelques petits composants autour pour obtenir cette mesure. Et donc, un galvanomètre tel que, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais heureusement, on n'est pas à court d'idées, et on va utiliser, encore une fois, la loi d'Ohm pour arriver à nos fins, et donc à avoir un ampère-mètre et des voltmètres. Et puis aussi, pourquoi pas, après, des ohm-mètres, des watt-mètres, que sais-je encore. Voilà. Mais une fois qu'on a trouvé l'astuce, c'est assez simple. J'ai pas encore précisé, mais évidemment, sur tous mes instruments de mesure, là, je peux utiliser une graduation. Là, en l'occurrence, ce que je vous ai montré, c'était en volts, mais je peux aussi mesurer des ampères. Je peux mesurer, pourquoi pas, aussi une température. Il suffit pour cela que je prenne une thermistance, donc une résistance dont la valeur varie en fonction de la chaleur. Et donc, automatiquement, je vais avoir non plus indiqué une tension, la tension sur la thermistance dont je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quelle valeur en termes de température ça correspond. Autre chose, tout à l'heure, là, le Matrix que je vais vous présenter, il avait aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle à l'époque un luxmètre. Donc ça permettait de savoir quelle était la lumière. Et donc il y avait un accessoire qui était vendu à part, qu'on branchait à la place un endroit précis du circuit, et ça permettait comme ça de mesurer la lumière dans une pièce, par exemple. On peut après multiplier, une fois qu'on a quelque chose qui mesure, il suffit de savoir comment... de trouver tout ce que l'on peut mesurer intelligemment. Et évidemment, pourquoi pas aussi la puissance HF, donc ça, dans ce cas-là, c'est un wattmètre. Mais vous remarquez qu'à chaque fois, on part d'un galvanomètre qui ne mesure donc que des tensions et des intensités. Et donc, pour lire une tension plus importante que celle de mon simple galvanomètre, tout simplement, je vais ajouter en série, ici, une résistance. Alors, les multimètres digitaux, oui, c'est mieux, mais alors par contre, j'espère qu'ils ne poseront jamais de questions à l'examen là-dessus, parce que c'est un peu compliqué à savoir comment ça marche à l'intérieur. Autant comprendre comment marche un galvanomètre et un multimètre analogique, ça reste facile à comprendre. Si on vous demande d'analyser un schéma d'un voltmètre numérique, c'est un peu plus compliqué quand même, je vous le dis tout de suite. Donc... Alors c'est beaucoup plus rassurant maintenant parce que on a une valeur super précise, mais est-ce que la valeur affichée est vraiment la bonne valeur, ça, aucune idée. Et puis vous remarquez que ce genre d'appareil numérique, la valeur elle bouge tout le temps. Alors qu'avec un voltmètre à aiguille, on voit à peu près. En plus, il y a l'inertie de l'appareil, mais on a une idée beaucoup plus... Soit on veut de la précision et on regarde exactement ce qui sort, ou alors, si on veut juste avoir une idée, on sait que ça sort... Allez, il y a 3 volts là, et on s'en fout de savoir si c'est 2,95 ou 3,05. C'est à peu près 3 volts, et c'est tout ce qui nous intéresse, nous. Donc, pour revenir à notre voltmètre, ce que je vais faire pour mesurer une tension plus importante, tout simplement, je vais rajouter une résistance en série. Et cette résistance en série, elle va, comme elle a la même intensité qui passe dans la résistance que dans le galvanomètre. Je connais l'intensité de déviation maximum de mon galvanomètre, ça c'est le fabricant qui me dit, et d'ailleurs la plupart du temps, c'est marqué sur les appareils. Alors là, je ne le vois pas. Si, là c'est 15 000 ohms par volt. Celui-là, il n'y a pas marqué. Mais voilà, sur celui-là, je reviens sur ma webcam. Tac. Alors, il est où ? Voilà. Hop. Alors, c'est marqué ici. Alors, est-ce que on est... Ouais. Donc là, il y a marqué 15 000. Hein ? Et donc, c'est donc 15 000 ohms par volt. Derrière les deux grabouillis, là, c'est ohm slash V. Donc, voilà, et donc limité à 150 volts, c'est-à-dire que au mieux, on lui met 150 volts à ces bornes, là, parce qu'évidemment, après, on ne sait pas trop ce que ça donne. Alors, les commentaires. Alors, on peut aussi utiliser un convertisseur analogique numérique, oui. Ouais, donc pas de questions particulières. Donc, voilà, je reviens sur mon PDF. Voilà, hop. Donc, là, je vais tout simplement appliquer ma loi d'Ohm, puisque j'ai mon intensité de déviation maximum, et puis j'ai la tension que je veux mesurer avec mon instrument de mesure. On va dire que la tension ici, dans le galvanomètre, elle est négligeable. Enfin, tout au moins, si je veux mesurer, par exemple, du 150 volts, comme pour mon instrument de mesure, là, du 150 volts, alors que ici, ma chute de tension dans mon galvanomètre, ça va être quelques millivolts, on s'en fout complètement. D'accord ? Donc, ce qui va m'intéresser, c'est l'intensité de déviation maximum. Ça va m'intéresser. C'est mes fameux 15 000 ohms par volt. 15 000 ohms par... Quand on réfléchit en ohms par volt, finalement, c'est l'inverse de l'intensité de déviation maximum. L'intensité, c'est U divisé par R, donc volt divisé par ohm, et là, ce que m'indique le constructeur, ce sont des ohms par volt. Donc finalement, c'est l'inverse de l'intensité. C'est l'inverse de l'intensité de déviation maximum. Donc, mes 15 000 ohms par volt, si je prends ma calculette, alors, sur le cours PDF, la photo... Alors, la photo n'apparaît pas sur le cours PDF, non, parce que je le passe là, et puis elle n'est pas non plus dans le livret, parce que je ne peux pas mettre de photo, sinon ça prendrait trop de poids, voilà, et même dans la version, et ça n'y sera jamais, je ne mettrai jamais de photo dans le cours PDF parce que c'est trop important. Et donc alors oh non Richard, il y avait marqué 15 000 ohms par volt, il n'y avait pas marqué ohm tout court, il y avait marqué ohm par volt, donc la résistance, enfin l'intensité de déviation maximum, c'est sûrement pas 15 000 ohms divisé par 150 volts. Hein, ce sont bien des ohms par volt. Et donc, quand je prends ma calculette, que je recherche, qu'elle est passée en dessous, où est-ce qu'elle est passée la calculette ? Hop, c'est pour celle-là. La voilà. Hein, si je prends ma calculette, que je fais 1 divisé par 15 000, exé, ça me donne donc 66 microampères. Enfin, 67 microampères. Donc, mon intensité de déviation, il me faut 67 microampères pour faire dévier à fond mon galvanomètre. Et connaissant cette valeur, donc mes 67 microampères, eh bien, je peux ici calculer la résistance, puisque R est égal à U sur I. U, c'est mes 150 volts que je veux faire chuter, et I, c'est donc les 66 microampères qui passent dans ma résistance, puisque si ça passe ici dans ma résistance, il va passer exactement la même intensité ici dans mon galvanomètre. Ça, c'est ma loi des mailles. Ma loi des nœuds, hein, puisque l'intensité est la même dans ma résistance et dans mon galvanomètre. La tension ici au bord du galvanomètre, elle est négligeable. Hein, mes 66 microampères, même si j'ai 20 ohms, ça va me faire misère. Hein. Ça va me faire même pas 1 millivolt. Donc je me fous complètement de cette chute de tension par rapport à la chute de tension ici que j'ai dans ma résistance. Et donc ma résistance, là, si je veux faire 150 volts, donc je fais 150 divisé par réponse, hein, donc 150 divisé par réponse égale, et donc il faut que j'utilise une résistance qui fait 2,25 mégaohms. Voilà, donc je mets en série une résistance qui fait 2,25 mégaohms, et avec mon galvanomètre que j'ai là, eh bien, j'obtiens ici un voltmètre qui me permet de lire du 150 volts, ce qui n'était pas possible quand j'utilisais pas cette résistance que je mets en série. Donc ça, ça donne donc un voltmètre. Et évidemment, plus on va avoir une intensité de déviation maximum la plus faible, mieux va être le voltmètre, puisqu'il ne va pas perturber le circuit. Parce que le problème, on va le voir tout à l'heure dans la manip qu'on va faire en fin de cours, c'est que si on a un galvanomètre de pas très bonne qualité, automatiquement, on va avoir un problème, puisque le fait d'insérer l'instrument de mesure va perturber le circuit et donc éventuellement la lecture de la valeur sur le circuit. Donc on va revenir dessus, mais ouais, enfin, je préfère que vous ayez bien ça en tête, et même chose pour l'ampèremètre. Parce que quand on a un ampèremètre, alors ce que l'on va utiliser pour l'ampèremètre, eh bien en fait, on va utiliser non plus des résistances en série, mais on va utiliser évidemment des résistances en parallèle. Pourquoi ? C'est que la tension du coup sur mon galvanomètre, elle, en fait, il va y avoir une tension pour laquelle la dérivation d'aiguille est maximum, hein, donc c'est la résistance interne multipliée par l'intensité de déviation maximum, voilà, et à partir de là, on va dévier la majeure partie du courant, finalement, dans ici cette résistance qu'on va appeler un shunt. Alors, pour des grosses valeurs d'intensité, on va avoir... Ça, c'est un shunt que j'ai trouvé dans un voltmètre, donc qui avait été évidemment bricolé. Hein. Enfin, c'est bricolé, non. C'était vendu avec la bête. Alors que je vous montre. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça c'est en fait un morceau ici de cuivre que l'on taille pour arriver ici à la bonne valeur. Donc évidemment, quand on a besoin de beaucoup d'intensité à dévier par ce shunt, hein, Évidemment, la résistance doit être très faible, puisque la loi d'Ohm, elle me dit que ce qui passe ici, si je veux faire passer ici 1000 fois plus d'intensité que dans mon galvanomètre, la résistance ici, donc du shunt, doit être 1000 fois inférieure à la résistance ici de mon galvanomètre, qui est de l'ordre, en règle générale, d'une dizaine d'ohms. Et donc, 10 ohms divisé par 1000, ça fait un centième d'ohme. Et un centième d'ohme, vous allez chercher désespérément des résistances qui font un centième d'ohme. Vous n'en trouverez jamais. Et donc, il va falloir utiliser des astuces comme ça. Donc ça, c'est une barrette de cuivre qu'on fait, on fait des traits de scie dedans pour arriver à la valeur que l'on souhaite. Ce que je vais vous montrer là, c'est d'ailleurs, c'est récupéré sur un des... ça ressemble étrangement à ce qu'il y a dans le Matrix que j'ai. Là, je vais vous la passer à la webcam. Hop, je vais vous le passer. Voilà. Donc là, donc ça, c'est une barrette où on a les différents... en fait, c'est rattaché là aux différents points. Donc là, évidemment, c'est un gros fil. Donc c'est là où on va avoir le plus d'intensité. Ici, un peu moins d'intensité. Ici, encore un peu moins, etc., etc. Et donc ça, c'est là où on regarde la résistance totale du fil. À l'ohmmètre, là, on a... il mesure rien du tout parce que la résistance est trop petite. Hein, ça doit faire... de l'ordre de 1/10 d'ohm. Et mon voltmètre, il croit, lui, que c'est du court-circuit. Hein. Il n'est pas suffisamment fin pour déterminer la valeur. Et donc tout ça, ce sont les différents points. Hein. Si on se met entre là et là, eh bien, on a un calibre, on va dire, 5 ampères. Ici, 2 ampères, ici 1 ampère, et ici, des milliampères. Voilà. Là, comment ça fonctionne. Et donc, ça, c'est ce que l'on trouvait dans les multimètres numériques. Évidemment, plus le fil est gros, plus il laisse passer l'intensité. Je reviens sur mon PDF. Voilà. Donc, encore une fois, on va faire marcher sa jugeote et sa loi d'Ohm. Hein, puisque là, ce que l'on va finalement, encore une fois, l'idée là, c'est on a une intensité de déviation maximum, une résistance interne, donc ça va me donner ma tension de déviation maximum, hein, U égale RI, ça marche bien. Et puis on va l'appliquer ici, donc on a cette tension. Et quand on va vouloir ici utiliser un calibre différent, puisque ici on a des très petites valeurs, hein, c'est les 50 microampères, hein, enfin 66 si je prenais mon voltmètre de tout à l'heure, donc c'est des très faibles valeurs, et pour avoir plus d'intensité, eh bien on met ici en dérivation une résistance très très faible. Quasiment l'intégralité du courant va passer ici dans cette résistance. Et comment on calcule cette résistance? Eh bien, la résistance, R est égale à U sur I, U tension de dérivation maximum, divisé par I, c'est le calibre, parce que si vous prenez un calibre de 2 ampères et que vous avez que 50 microampères qui passent là, vous avez quasiment les 2 ampères qui passent là, et vous en foutez du reste, puisque de toute façon, votre galvanomètre, s'il a une tolérance de 2%, vous serez très 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 content. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de faire des calculs super d'apothicaire, et donc la résistance, c'est R est égal à U divisé par I, donc U tension de déviation maximum du galvanomètre divisé par I, l'intensité du calibre. Point barre. Et donc là, donc, on a trouvé un voltmètre et un ampèremètre, mais en continu. Si on veut mesurer des tensions alternatives, attention. Attention, pourquoi ? C'est que, en règle générale, enfin même, c'est pas même en règle générale, c'est toujours un galvanomètre, si on le met en position tension alternative, ne va afficher la bonne valeur que s'il y a du courant sinusoïdal. Si ce n'est pas sinusoïdal, vous êtes certain que la valeur efficace qu'il affichera sera fausse. Parce que tout a été calculé pour avoir cette tension efficace par rapport à une tension sinusoïdale. Si le signal n'est pas sinusoïdal, c'est les triangles, le carré, tout ce que vous voulez, vous êtes certain que la valeur affichée ne sera pas bonne. Alors comment on fait ? Eh bien tout simplement, on met dans le circuit une diode, et la diode donc ne va laisser passer le courant que dans un sens, ça on la verra un peu plus loin dans le cours, mais voilà, donc elle ne laisse passer le courant que dans un sens, et donc ce qu'elle lit finalement c'est le courant moyen dans un sens. Et donc après, eh bien il y a tout un calcul qui est fait pour que, alors soit c'est un calcul et donc l'échelle elle est adaptée, mais si on garde la même échelle, que l'on soit en courant continu ou en courant alternatif, là on va utiliser un montage des résistances pour faire en sorte que le passage de cette tension moyenne à la tension affichée fonctionne. Voilà. On verra tout à l'heure, j'ai aussi récupéré le schéma du Matrix, et donc il y a, alors c'est du calcul, hein, c'est de l'application de la loi d'Ohm. Alors encore une fois, c'est pas ce qui est demandé à l'examen, mais voilà, c'est pour vous fixer les idées, savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Hop. Alors, et ben voilà, quelques exemples. Donc j'ai sorti ma calculette. Alors, je vais. Hop. Voilà. Donc on a un galvanomètre qui a une intensité de déviation maximum de 20 microampères, ça c'est un très bon. C'est un très bon. Et une résistance interne de 10 ohms. Voilà. Et donc, la question c'est comment réaliser un voltmètre dont le calibre est de 10 volts et un ampèremètre dont le calibre est de 1 volt. Donc je vais prendre ma webcam, et on va se le faire à la calculette. Alors, hop, webcam, toc, j'ai la calculette, mon petit schéma, donc mon galvanomètre. Donc mon galvanomètre, on avait dit donc 20 microampères et 10 ohms. D'accord ? Donc 20 microampères et 10 ohms. Si je veux faire un voltmètre qui me permet de calculer 10 volts, je rajoute une résistance en série. Alors, quand on regarde là, la tension qui va permettre d'avoir une déviation maximum de l'aiguille, c'est donc 200 microvolts. Par rapport à mes 10 volts, alors je remonte un peu la webcam, ou je redescends ça, ça va être plus simple. Par rapport ici à mes 10 volts dont j'ai besoin, hein, c'est ça que je veux mesurer, 10 volts en tout, finalement, mes 200 microvolts, là, ben, c'est peanuts. Donc, je veux avoir ici, finalement, 10 volts. Hein, sachant que mes 200 microvolts, là, on s'en fout complètement. Et donc, j'ai besoin de 10 volts et j'ai 20 microampères qui passent dedans. Quelle est la valeur de la résistance? Donc, j'ai... Donc, la R est égale à U sur I. Donc, U divisé par I, 20 multiplié par 10 puissance moins 6. Exé. Donc, ça me donne 500 kilo-ohms. Alors, si on veut être très fin, mais 50 kilo-ohms, ça serait pour l'ensemble résistance plus galvanomètre. Donc, ma résistance théorique, c'est 499,990 ohms. Puisque ici, j'ai 10 ohms ici dans mon galvanomètre. Mais voilà, je vais plutôt prendre ici ma résistance de 50 kilo-ohms. D'accord ? Donc ça, c'est pour mon voltmètre. Donc la résistance, dans les questions d'examen, ça sera sûrement 500 kilo-ohms. Alors, si vous avez 499,990 et 500 kilo-ohms, évidemment, ça, c'est la bonne réponse, je dirais, par le calcul. Mais dans la vraie vie, vous allez plutôt utiliser celle-là, parce que vous utilisiez celle-là ou celle-là, je ne suis pas certain que vous ayez un instrument de mesure qui puisse vous faire la différence aussi facilement. Voilà, même un appareil numérique. Même un appareil numérique. Parce que vous allez avoir une définition comme ça, mais est-ce que pour autant l'affichage sera correct? Pas certain. C'est pas parce que vous avez plein de chiffres après la virgule que pour autant vous êtes certain du chiffre justement qui est après la virgule. Donc ça c'est pour mon voltmètre. Mon ampèremètre maintenant. Donc là, je retire tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Par contre, mon galvanomètre où j'aurais pu tout laisser, il fait toujours 20 microampères et toujours 10 ohms. Et toujours 200 microvolts. D'accord ? Donc ce galvanomètre, je vais tirer dessus encore un peu, je vais mettre ici une résistance. Une résistance en parallèle, et cette résistance en parallèle, donc je veux que mon ampèremètre, il mesure 1 ampère. C'était dans mon énoncé. Donc là, j'utilise encore ma loi d'Ohm. Cette résistance-là, quelle valeur doit-elle faire? On va supposer encore une fois que que l'intensité là qui passe dans mon galvanomètre, elle est négligeable. Donc on va l'oublier, on va dire que quasiment mes 1 ampère vont tous passer là-dedans, puisque là j'en ai 20 microampères, donc une misère. Et donc la valeur de ma résistance, là, donc c'est R est égal à U sur I, et on y va, U 200 multiplié par 10 puissance moins 3, puisque je suis moins 6, je suis en microvolts, donc R est égal à U sur I, je divise par I, 1 ampère, donc voilà, donc j'ai 200 micro-ohms. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Et si on veut faire précisément diviser par l'intensité, donc dans ce cas-là, c'est pas 1 ampère, donc je divise par
j'ouvre ma parenthèse, 1 moins 20 micros, 20 10 puissance moins 6, hein, 1 moins 20 micros ampères, je ferme ma parenthèse, je fais exé, et voilà, ma calculette, elle me donne toujours pareil, 2 10 puissance moins 4, donc il aurait fallu que je mette plus de chiffres significatifs pour que ça puisse faire la différence. On va essayer de le faire, mais je ne suis pas certain que d'y arriver. Scientifique 7, j'en mets 9. Et voilà, donc il y a juste un chiffre ici qui a changé. Donc on s'en fout un petit peu. Donc voilà les questions. Alors ce ne sont pas réellement des questions d'examen, c'est des questions que j'ai moi inventées, sachant que j'ai pas réellement vu de questions d'examen sur ce point-là. Mais voilà, c'est encore une fois de l'application bête et méchante de la loi d'Ohm. Une fois que vous avez compris la loi d'Ohm, vous la déployez et puis vous l'appliquez. Voilà, continuez à l'appliquer. Donc je reviens avec mon affichage qui me convenait mieux avec 4 chiffres significatifs, donc mon premier chiffre est 3 chiffres après la virgule. Je reviens sur mon PDF. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de brancher un voltmètre, ou un ampèremètre d'ailleurs, hein, ne doit pas perturber le fonctionnement du circuit. Parce que le problème, c'est que si on utilise un voltmètre dont l'intensité de déviation maximum est trop importante, on risque de perturber le circuit, surtout si dans le circuit passent de très petites intensités. Parce que s'il passe de très petites intensités, automatiquement le fait de rajouter cette dérivation, finalement, si on mesurait la tension, et ben, du coup ça va perturber la lecture du circuit. Et donc il ne va plus fonctionner de la même manière. Donc le fait d'insérer un instrument de mesure, le circuit ne va plus fonctionner de la même manière, et de ce fait, peut-être qu'on va mesurer n'importe quoi. Et donc, on va utiliser, c'est pour ça que dans tous les instruments de mesure, on indique toujours le nombre, cette indication d'ohms par volt, qui est en fait l'inverse de l'intensité de déviation maximum. Mais c'est important, pourquoi ? C'est que c'est ce rapport d'ohms par volt qui va déterminer la valeur de la résistance que l'on met à la suite. C'est-à-dire que, quel que soit le calibre utilisé, on va toujours avoir ce même rapport. Le nombre d'ohms par volt, c'est la valeur, hein, ce sont la valeur de la résistance du galvanomètre et de la résistance que l'on met en série. Donc c'est l'addition de ces deux valeurs divisé par la tension de calibre qui ne change pas. Puisque, encore une fois, l'intensité de déviation maximum, elle ne change pas. Elle est toujours la même. Donc, automatiquement, le nombre d'ohms par volt, lui, est fixe, et donc, c'est l'inverse de cette intensité de déviation maximum. D'accord ? Donc, quand on a ce qui est indiqué là, le nombre de d'ohms par volt, c'est ce qui indique finalement la qualité du voltmètre. Voilà, donc cette résistance là en série avec avec celle du galvanomètre, là, les deux résistances-là, divisées par cette tension totale de calibre, ça donne donc mon nombre d'ohms par volt. Et c'est l'inverse de l'intensité de déviation maximum. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que les multimètres numériques, eux, n'ont pas une résistance interne qui est constante. C'est-à-dire, quel que soit le calibre qu'on utilise, ils ont toujours la même résistance interne. Et donc, elle n'est plus proportionnelle, cette résistance interne, au calibre utilisé. Hein, ils vont avoir. Alors, c'est vrai que ce sont des grosses valeurs, du style 100 kilos, voire plus, 1 mégaohm, mais 1 mégaohm, on ne peut pas dire par volt. C'est 1 mégaohm, point barre. Et c'est 1 mégaohm, quel que soit le calibre que vous allez utiliser. Et évidemment, l'impédance, elle est très élevée, et de ce fait, le fait d'utiliser un multimètre analogique, ça perturbe moins le fonctionnement d'un circuit. Voilà. Alors, je ne vois pas de commentaires en ce moment, donc je pense que soit j'ai perdu tout le monde, soit tout le monde dort, je sais pas. Mais bon, peu importe. Donc, qualité des voltmètres, ça c'est important. En revanche, dans les questions d'examen, il y a quelques questions de ce type-là. Donc là, on vous propose un voltmètre de 5 kΩ par volt. Donc c'est une merde, hein. Je vous le dis tout de suite. 5 kΩ par volt est une merde. Vous pouvez le jeter tout de suite, d'ailleurs. Mais bon, peu importe, on s'en fout. Donc on vous dit 5 kΩ par volt. Il a un calibre de 10 volts. Voilà. Et avec ce voltmètre, on veut faire un voltmètre qui non plus est un calibre de 10 volts, mais qui a un calibre de 100 volts. Donc du coup, ce que je fais, tout simplement, en série avec mon voltmètre, je mets une résistance. Mais une résistance de combien ? Alors, de combien, finalement, ce dont j'ai besoin, c'est de faire chuter ici 90 volts, puisque ici, mon calibre, c'est 100 volts, et ici, j'ai déjà 10 volts qui sont chutés dans mon voltmètre. Donc, finalement, la tension qu'il me reste à chuter, c'est donc 90 volts. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'intensité. L'intensité, c'est l'inverse ici de 5 kΩ. Donc c'est, si je fais 1 divisé par 5000, ça me donne donc 200 microampères. 200 microampères, et donc après, il suffit que je divise mais 90 volts par 200 microampères, et ça me donne 450 10 puissance 3, donc 450 kΩ. Autre manière de voir, je sais, par définition, il y a marqué là, 5 kΩ par volt. J'ai besoin de chuter 90 volts. Donc ce que je fais, je fais 90 volts à chuter, multiplié par 5 kΩ par volt. Et si je fais 90 fois 5, ça me fait 450 kΩ. Voilà, tout simplement. Sans faire de trucs compliqués. Donc le meilleur moyen quand on a ce genre de questions, on calcule ici quelle est la tension qu'il me reste à chuter, et on multiplie ici par la valeur de kΩ par volt. Et ça marchera tout le temps, puisqu'on vient de voir juste avant que ce rapport était constant pour un galvanomètre. Hein, ce galvanomètre-là, pour obtenir ce que l'on veut comme comme calibre, eh bien, il faudra multiplier par 5 kilos multiplié par le nombre de volts acheter complémentaires dans mon voltmètre, tout simplement. Donc c'est assez c'est assez simple. Une fois qu'on a bien compris le système, sans chercher à compliquer les choses, quoi. Voilà, mais on peut soit passer par l'intensité de déviation maximum qu'on peut calculer ici à partir de la qualité du voltmètre. Et donc à partir de là, on a l'intensité, on a la tension, donc on a la résistance. Ou alors, avec un peu plus de... de manière un peu plus intuitive, donc de calculer au prorata finalement de la chute de tension à obtenir. Parce qu'en tout, finalement, mon voltmètre, il va faire 500 kilo-ohms. Hein, puisque donc 500 kilo-ohms, dont 50 kilo-ohms ici, puisque ici j'ai déjà 10 volts. Donc ici, ma résistance interne, elle fait 50 kilo-ohms. Voilà, donc je pense que j'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, vous m'interpellez sur le chat et on revient dessus. Quelques informations sur les autres instruments de mesure. Alors j'en ai deux là auxquels j'ai pensé, c'est-à-dire déjà un ohmmètre et un wattmètre, parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. En fait, l'ohmmètre, c'est une adaptation de l'ampèremètre. Je m'explique. Pour faire fonctionner l'ohmmètre, on va voir dans le schéma, quand on va regarder tout à l'heure le schéma du matrix, là, ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute une pile et on va mesurer l'intensité qui passe dans la résistance. Et une fois qu'on a mesuré cette intensité, eh bien on va la reporter ici sur le cadran. Donc le cadran en ohm, il est ici. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on a une résistance très faible, eh bien on va avoir une intensité maximum. Hein, I est égal à U sur R, donc si R est égal à 0, eh bien on va avoir une intensité maximum très élevée, donc elle va être plutôt ici, et au contraire, quand on va avoir une résistance très importante, il ne va pas passer de courant, et donc au contraire, elle va être dans l'autre sens. Donc vous remarquez que quand on est en intensité ou en tension, le zéro est de ce côté-là, et la valeur maximum est plutôt vers la droite. Pour la lecture d'une résistance, donc en ohmmètre, c'est l'inverse. Et là, pour faire en sorte que le 0 ohm soit pile poil au bon endroit, enfin démarre bien au bon endroit, on rajoute ici cette fameuse résistance qu'on appelle de tarage, qui va permettre d'ajuster la tension de la pile. Parce qu'évidemment, la pile, celle que vous allez mettre, elle va avoir une tension un petit peu variable selon qu'elle soit usée ou pas. Et selon, avec l'usure de la pile, cette tension, elle diminue, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et donc, on est obligé, à chaque fois qu'on va utiliser notre voltmètre, enfin notre multimètre en tant que mètre, il va falloir tarer, finalement, le 0 ohm. Et c'est une fois qu'on aura taré le 0 ohm qu'on va pouvoir mesurer la valeur de la résistance. Et vous remarquez que du coup, autant la valeur ici en tension, elle est à peu près linéaire, tension ou intensité, c'est relativement linéaire, autant la valeur ici en intensité, comme c'est un calcul finalement, eh bien, elle n'est absolument pas linéaire. Et d'ailleurs, même vers la fin, là, ça se bouscule un petit peu au portillon, on ne sait plus trop, tout est très tassé, et on a ici, lorsque l'aiguille est sur 0, en théorie, c'est que la résistance est infinie, donc le fil est coupé, quoi, en clair. Voilà, donc voilà comment fonctionne un ohmmètre. Donc c'est cette fameuse R résistance là, avec cette résistance ajustable ou variable, qui permet de faire tarer finalement l'ohmmètre. Un wattmètre, c'est un autre instrument de mesure. Il y a rarement des instruments de mesure, enfin en multimètre numérique, qui permettent de mesurer des watts. Pourquoi ? C'est que, en fait, il y a strictement rien qui permet de mesurer des watts. Un wattmètre, ça n'existe pas dans la vraie vie. On mesure soit une tension ou une intensité, mais des watts, jamais. Donc, un wattmètre, c'est un instrument de mesure qui mesure en règle générale une intensité, j'ai bien dit en règle générale, une intensité. Pourquoi ? C'est que souvent les wattmètres, ils servent aussi de réflectomètre, c'est-à-dire qu'on va mesurer la puissance dans un sens et dans l'autre. Et pour cela, j'ai besoin de mesurer non pas une tension, mais des ampères, une intensité. Et donc, ce que va mesurer mon wattmètre, c'est l'intensité dans un sens ou dans l'autre. Donc, dans le sens du générateur vers l'antenne, ou de l'antenne vers le générateur, vers l'émetteur, pour les ondes qui sont réfléchies et qui retourne à l'émetteur lorsque l'adaptation n'est pas optimum côté antenne. Et ça, on en reparlera quand on parlera des adaptations et des désadaptations au niveau des antennes. Et ça, c'est vers la fin du cours. Mais on reviendra dessus. Et donc, mon wattmètre, en règle générale, il mesure une intensité. Et donc, en fait, on mesure la puissance grâce à l'intensité, puisque le wattmètre, il va être calculé pour une impédance. C'est-à-dire que si votre courant n'a pas l'impédance requise pour le wattmètre, et ben le wattmètre, il indique n'importe quoi. Et voilà. Et donc, en particulier si votre antenne n'est pas bien adaptée, de ce fait, l'impédance ne sera pas égale strictement à ce qui est prévu, c'est-à-dire aux 50 ohms, en règle générale, et par conséquence, le wattmètre va vous indiquer n'importe quoi si votre antenne n'est pas correctement adaptée. Et donc, voilà le schéma. Alors ici, j'ai pris un autre, parce que le wattmètre avec paramètre est un peu plus complexe. Et là, je vous ai mis le wattmètre le plus simple, donc le non directif, hein, un wattmètre vraiment bête et con. Et le wattmètre bête et con, celui-là qui coûte moins cher aussi, ne se part du principe que l'on mesure une tension. Et donc là, je mesure ma tension. Donc je mets ma résistance ici en série avec mon galvanomètre. Donc j'utilise une tension, hein, tout simplement. Et cette tension, alors j'aurais dû rajouter ici ma petite diode en série, parce que pour mesurer une tension alternative, c'est quand même mieux d'utiliser une diode en série. Donc il aurait fallu que je rajoute cette diode en série. Mais en tout état de cause, ce que je mesure ici, c'est une tension. Et à partir de cette tension, j'en déduis la puissance, puisque je sais que la puissance c'est U2 sur R ou U2 sur Z, l'impédance. Alors, l'élévation de la température ne permet pas de connaître la puissance. Alors ça s'appelle un bolomètre, qui n'est pas spécialement très précis, mais effectivement c'est un autre moyen de calculer la puissance, mais c'est valable ça pour des résistances. Si vous mesurez la puissance Vous pourriez mesurer la température sur votre antenne fictive, pourquoi pas. Mais voilà, le problème, c'est que si vous mettez votre résistance comme ça si vous mettez votre émetteur sur une résistance dont vous mesurez la température, bah, vous émettez pas pendant ce temps-là. Donc c'est un peu gênant. Donc avec la méthode de Mathieu, soit on émet, si on veut mesurer la puissance, on peut pas émettre en même temps. C'est quand même pas top. Hein. Je pense pas que vous allez convaincre beaucoup de monde d'acheter ce genre de matériel. Voilà. Mais sinon, c'est une très bonne idée, mais dans la vraie vie, c'est pas génial. Voilà. Et donc, encore une fois, ce que l'on va mesurer là, donc c'est une tension, mais on va faire en sorte que mon aiguille, là, on va l'adapter, puisqu'on sait que P égale U2 sur Z, donc on voit bien là que mon échelle n'est pas du tout linéaire, et que à mi-course, là, elle est grosso modo au quart de la puissance, à 25 watts. Et c'est normal, puisque à cette puissance, je n'aurai que la moitié de la tension ou la moitié de l'intensité. Voilà. Donc ce qui explique pourquoi les wattmètres n'ont pas une échelle qui est aussi linéaire ici que le voltmètre ou l'ampèremètre. Voilà. Et encore une fois, ce sont des instruments de mesure qui sont... c'est plus un indicateur de puissance que vraiment un instrument de mesure. D'une part parce que un galvanomètre, c'est pas d'une précision absolue. Et deuxièmement, c'est que l'impédance, c'est pas non plus gagné à tous les coups. Hein, vous n'êtes pas certain d'avoir vos 50 ohms pour laquelle la graduation là, elle est calculée. On en arrive à l'autopsie de mon matériel. Donc j'ai récupéré dans une très vieille vie. J'étais comptable dans une boîte de chauffage. Et donc dans cette boîte de... Je vais passer sur la webcam. Ça serait mieux. Dans cette boîte de chauffage, il y avait des gens qui venaient avec leur matériel qui était cassé, et donc ils venaient pour les faire réparer, puis des fois on disait non monsieur, ça va pas être possible. Pourquoi ça va être possible? Par exemple, là on voit bien que l'aiguille, elle s'était pris un petit jetard. Alors je sais pas si on voit bien, voilà, elle est un peu courbée, donc à mon avis il s'était pris quand même quelques tensions inverses, si bien que ça avait tordu l'aiguille. Voilà, et ça c'était avant que j'autopsie l'appareil. Donc, j'ouvre l'appareil. Alors, je le retourne déjà. Alors, j'ai gardé les vis dans la boîte. Voilà, donc voici l'intérieur de l'appareil. Je vais vous le mettre dans le bon sens, ça va être mieux. Vous remarquez... Alors, ça, c'est donc... ici, je le remets là. Ici, ça, c'est là où on met la pile, quand on veut s'en servir en tant qu'ohmmètre. Donc on met la pile là-dedans, enfin, elle est de l'autre côté, évidemment. On met la pile ici. Et il y a un fusible ici, voilà, pour protéger l'appareil. Et donc, on voit ici, là, c'est le côté où on a les bornes. Je retourne. Ici, on a les bornes d'intensité, ici, les bornes de tension. D'accord ? Donc, les bornes d'intensité... c'est mon fil, là, il est cassé maintenant. Donc là, mes bornes d'intensité, on retrouve bien le même petit morceau de circuit là, que je vous montrais tout à l'heure. Et donc là, ils sont soudés directement sur les... sur l'endroit où on met les fiches bananes. Et ici... C'est là que vous avez votre grosse résistance, plus exactement la petite résistance qui vous permet de mesurer le plus d'intensité. Donc là, c'est pas un bout de cuivre qu'on a, où on a mis des traits de scie pour ajuster la valeur. Là, c'est un bon fil, un peu long, et du coup, on l'a un peu bobiné pour que ça tienne dans la boîte. Voilà. Ici, vous avez des tas de petites... Alors, elles sont noires, donc on les voit peut-être pas très bien à la webcam. Enfin, ici, vous avez des tas de résistances, ici, en série, qui vont faire, ici, tous les calibres en tension. Ici, vous avez le commutateur. Avec le système, alors, on les voit pas très bien, mais il y a des diodes. Alors, les diodes, elles sont là, planquées derrière, là, donc on les voit pas trop. Et il y en a une deuxième ici. Donc il y en a une ici et une ici. Donc ça, c'est les diodes de redressement qui vont vous permettre de mesurer des valeurs alternatives. Ici, vous avez... Donc ça, c'est le petit circuit qui va vous permettre de transformer les valeurs alternatives en tension continue. Puisqu'on va utiliser, vous allez voir l'écran du galvanomètre, on va utiliser la même échelle. Donc il y a tout un calcul, une histoire, qu'il faut tout remettre dans le bon ordre. Et pour ajuster tout ça, ici, il y a une petite résistance ajustable, qui est ici, là. Alors, je vais vous montrer, peut-être descendre un peu. Voilà. Ah ouais, on voit bien, là. Donc ici, vous avez votre résistance ajustable, là, même deux résistances ajustables, une ici, qui vont vous permettre de peaufiner le réglage de votre appareil, donc le passage d'alternatif à continu. Hein, les diodes, il y en a une là et une là. On la voit mal là, la deuxième. Voilà. Et ici, donc, j'ai mon galvanomètre. Je me déplace un peu. Mon petit galvanomètre, qui est là, que je prends. Alors, que j'ai démonté, hein. Donc, normalement, tout ça, c'est vissé, hein, évidemment. Je déplace et je vous montre, donc, le galvanomètre. Alors, déjà, dans un sens... Dans le sens normal, je dirais. Donc ici, voilà votre galvanomètre. Alors, c'est ce que je cherchais et je vois pas marqué le nombre de d'ohms par volt là-dessus, sur le cadran. Ça doit être indiqué quelque part sur le galvanomètre, enfin sur l'instrument de mesure lui-même, pas sur le galvanomètre. Voilà. Important, donc ça c'est vous avez ici les différents je vais mettre ça, recentrer ça, voilà, on voit mieux. Donc ici vous voyez en ohm, ici ça commence à 0 ohm et ça finit alors à 500 ohms à peu près lisible, au-delà c'est très serré quoi. Donc on peut dire que la fonction de mètre permet de lire à peu près, on va dire jusqu'à 500 ohms, 200 ohms sûrement, 500 ohms, un peu plus difficilement, mais avant 200 ohms, on arrive à bien retrouver les petits. Ici, l'échelle des volts, qui est valable pour la tension continue et la tension alternative, ça, c'était ça qui était important dans ces métriques, c'est qu'il y avait, on passait de l'un à l'autre très facilement. Alors que pour d'autres marques, en fait, il y avait une autre graduation qui indiquait les tensions alternatives. Mais là, pour celle-là, on avait la même... c'était l'astuce du Matrix, pour ça qu'il coûtait un peu plus cher. Et donc, ici, vous avez les intensités qui sont ici. Et là, le fameux luxe, là, dont je vous parlais tout à l'heure pour la lumière. Et en fait, on mettait une résistance... c'était une cellule photoélectrique qu'on mettait, et cette cellule photoélectrique elle générait une tension proportionnelle à la lumière. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, les vieux appareils photo, vous aviez cette cellule qui permettait de déterminer la valeur de la lumière pour régler la vitesse et l'ouverture de l'appareil photo. Maintenant, tout se fait automatiquement, c'est plus drôle. Auparavant, il fallait réfléchir un petit peu. Donc, ça, c'est mon galvanomètre. Vous remarquez que, ça c'est important, ça aussi, tous ces instruments, il y avait un miroir derrière, quand on fait tourner comme ça. Là, il y a un miroir, ici. Ça permet, comme ça, la personne qui lit la mesure, d'être certain d'être en face de l'aiguille. Et donc, quand on est en face de l'aiguille, du coup, elle n'est pas réfléchie par le miroir, enfin, tout le monde, on la voit plus, elle est derrière, et donc, comme ça, on est certain d'être face à l'instrument de mesure, et donc, à bien être en face, ici, de la zone de lecture. Ça, c'était aussi une des caractéristiques, pour ça qu'il coûtait assez cher, ces appareils-là, c'est que, voilà, il y avait quand même quelques beaux accessoires qui étaient, voilà, ça, c'était en métal, c'est un métal peint, alors que dans les autres, souvent, c'était du carton. Donc, c'est pas non plus la même chose. Et puis, en fait, il y a aussi cette fameuse aiguille-là. Alors, je vais vous retourner la bête, parce qu'on le voit mieux de ce côté-là. Ici, je vais mettre ça là, le tenir. Ici, vous avez donc... Ah, un mal. Ici, vous avez l'aimant. Donc, avec ici des entrefers. Et donc, la bobine, elle se déplace à l'intérieur, là. Ainsi. Est-ce que je peux la faire tourner? Elle est où même? Mon aiguille, elle est là. Voilà. Si je la fais tourner, on voit la bobine, elle tourne. Et donc, elle va changer comme ça, et elle va tourner pour arriver dans le champ magnétique lorsque l'intensité va être au maximum. Alors non, c'était pas une photorésistance, c'était Richard, puisqu'il n'y avait pas besoin de la pile, c'était vraiment une cellule comme dans les appareils photo, puisque moi j'ai connu des appareils photo où il n'y avait pas besoin de pile. C'était juste une cellule qui générait de la comme on a maintenant les cellules photosolaires. Ça fonctionnait exactement de la même manière. Et donc il n'y avait pas besoin de piles. Et par contre, c'est vrai, il y avait aussi des cellules qui avaient besoin d'une pile, et donc celle-là, effectivement, c'était une photorésistance. Voilà, donc ça c'est pour voir comment ça fonctionne. Voilà, et donc on voit bien là que ça tourne en fonction ici. Alors ce qui est mort aussi, je pense, pas si mort que ça, je pense. Ah oui, ça, c'est plus en face. Voilà. Hop. Si c'est pas. Je pense qu'il y a. Elle s'est pris trop de choc, hein. Donc ça va plus bien fonctionner, et là il y a le petit ressort de rappel là, ne fonctionne plus parce qu'il est là en fait. Je ne sais pas si on le voit, il est là. Donc il s'est pris un petit coup, et du coup il ne ramène plus l'aiguille au fur et à mesure. Mais ça c'est moi qui l'ai, je pense qu'il s'est cassé quand j'ai démonté l'ensemble. C'est très fragile, hein. C'est très fragile, et donc c'était difficilement réparable, tout au moins quand il y avait un problème au niveau du galvanomètre. Quand c'était des problèmes de résistance encore, c'est-à-dire qu'en fait on avait mis des valeurs trop importantes, ça allait encore, mais quand le problème venait plutôt du galva, là c'était difficile à réparer, et la plupart du temps d'ailleurs on changeait le galvanomètre, et ça coûtait presque aussi cher que de racheter un appareil neuf. Donc je le remets en place, je le remets en place, je le fermerai tout à l'heure, proprement, parce que là, il a un peu de mal à s'essayer. Ça y est, c'est passé. Voilà, on referme le tout, et on garde ça pour l'année prochaine. Voilà, je remets mon élastique, je ne sais pas où il est, je vais le remettre après. Et on garde ça pour l'année prochaine. Je reviens sur mon PDF. Pour votre information, le PDF, alors il est où ? Voilà. Hop, le petit schéma. Donc ça, c'est donc le schéma interne. Donc il y a ici tout. Il y a un commutateur qui permet de déterminer si on veut une tension, une intensité, la résistance. Hein, donc, et si vous êtes en courant continu ou en courant alternatif, hein, vous avez les 5 contacts qui sont ici. Hein, qui sont, sur mon appareil, la peinture a souffert aussi. Donc, on ne voit plus trop quels étaient les différents contacts. Voilà, et donc ici il y a toutes les résistances ici d'intensité, avec ici le contact en ohm et la pile du coup, hein, puisque la pile on la branche entre le commun qui est ici et la borne ici ohm, donc on a la pile, et de ce fait on calcule ici l'intensité. Ici on calcule les tensions. Et ce petit circuit-là, c'est ce qui permet de transformer les tensions alternatives en courant continu. Donc ici, on voit qu'il y a 2 diodes, une résistance variable, et puis, alors ici, il y a une deuxième résistance variable. Enfin, il faut regarder pourquoi il y a 2 résistances variables, ça doit s'expliquer, il faut reprendre sa calculette et calculer ça. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui permet de transformer donc l'intensité ou la tension alternative et de la transformer en valeur continue de la même valeur finalement. Pour qu'on puisse le lire sur la même échelle de lecture. Quoi dire d'autre? Oui, puis ici on voit les 2 diodes là, c'est ce qui permet ici de passer en valeur continue ou alternative. C'est ces passages-là qui permettent de le faire. Voilà sur le schéma. Bon, rien d'extraordinaire. On en arrive à la deuxième chose que l'on voulait voir ce soir, qui sont les microphones et les haut-parleurs. Les relais, on va les voir tout à la fin. Mais bon, microphone et haut-parleur, c'est un petit peu, ça marche de la même manière, je dirais. Tout au moins, on va retrouver des caractéristiques identiques dans les microphones et dans les haut-parleurs. Et d'ailleurs, là, beaucoup de microphones proviennent de haut-parleurs, et inversement, enfin, je veux dire, ça va marcher de la même manière. Premièrement, on va déjà parler de ce que l'on fait passer dans un microphone ou un haut-parleur. Donc, microphone et haut-parleur, c'est pour... on s'intéresse dans ce cas-là au domaine de ce qu'on appelle les basses fréquences. Basses fréquences, qu'on appelle aussi BF, ou audio-fréquences, hein. Donc les basses fréquences occupent un spectre qui va grosso modo de 0 à 20 000 Hz. Et ça c'est la théorie. À l'intérieur de ces basses fréquences, il y a les fréquences dites acoustiques. Acoustique, c'est ce que l'homme peut entendre. On ne parle pas ici des chiens, des chauves-souris, etc., qui peuvent entendre des sons beaucoup plus aigus que l'oreille humaine. Et donc, les fréquences acoustiques, elles vont grosso modo de 100 Hz à 15 000 Hz. Sachant que la limite haute, plus on vieillit, plus cette limite haute va diminuer. 15 000 Hz, c'est pour un jeune qui n'a pas trop utilisé un casque dans sa vie encore, enfin un casque audio pour écouter sa musique à fond. Voilà. Et quand plus on va dans l'âge, plus ce spectre diminue, mais il diminue essentiellement sur le haut, pas trop sur le bas. Voilà, moi par exemple, au-delà de 7000 Hz, j'entends plus. Voilà. Donc là, j'y fais beaucoup. Donc ça, ce sont les fréquences dites acoustiques. Mais à l'intérieur de ces fréquences acoustiques, en fait, il y a aussi un spectre qui permet de comprendre une conversation. Et là, on va encore réduire le spectre, c'est-à-dire qu'en prenant un spectre qui va de 300 à 3000 Hz, c'est largement suffisant pour comprendre un message en téléphonie. En revanche, si vous utilisez ce spectre pour passer de la musique, par exemple, eh ben, ça va avoir un effet très pitoyable, c'est-à-dire que votre qualité audio va être complètement dénaturée. Si vous n'entendez plus les aigus, ben, vous n'allez plus entendre les coups de cymbales ou ce genre de choses. Même chose si vous coupez tous les graves, ben, la bonne basse que vous pouvez entendre sur un groupe de rock, ben vous n'allez plus l'entendre. Donc, quand on parle ici de largeur de spectre, c'est très important. Nous, ce dont on a besoin, puisque c'est ce que l'on recherche, c'est uniquement la téléphonie. Et quand on est en téléphonie, on a juste besoin d'un spectre qui va grosso modo de 300 à 3000 Hz. Et ça, que ce soit les voix féminines ou masculines. Donc la voix humaine, elle est composée de fréquences issues de plusieurs organes, je dirais. On a les sons qui sont issus de nasalisations qui s'échappent par le nez, comme les lettres M ou N, et ça c'est donc des graves. Donc, quand vous entendez un M ou un N, ça doit générer des fréquences graves, donc plutôt vers les 300 Hz. Le souffle, donc ça c'est ce qu'on appelle le coffre, donc ça c'est dès que vous avez des lettres qui sont soufflées, donc expirées par la bouche, par exemple justement le CH, le CH, ça c'est expiré par la bouche. Ensuite il y a les cordes vocales, qui, elles, vont générer aussi des fréquences différentes. Puis après, il y a les sons émis par la langue et les lèvres. Et ça, on va se retrouver sur des fréquences élevées. Exemple, la lettre F, la lettre P, tout ça, ou la lettre S, tout ça, ce sont des sons qui sont aigus et qu'on appelle la sibilance. Donc, et donc quand on va des graves jusqu'à la sibilance, alors la sibilance, elle va presque au-delà des 3000 Hz. Mais finalement, on n'en a pas trop besoin pour comprendre quelqu'un. On va en avoir besoin pour reconnaître la voix de quelqu'un, donc être certain que c'est bien la bonne personne. Par contre, pour converser, c'est-à-dire passer des informations, finalement, on n'en a pas vraiment besoin beaucoup. Ce dont on a besoin, c'est le grave, le coffre et la présence. La sibilance, ça permet juste de reconnaître la personne. Donc les graves, elles ne sont pas utiles à l'intelligibilité, mais voilà. Enfin, tout dépend un peu de si vous maîtrisez bien la langue ou pas. Si vous maîtrisez mal la langue, vous risquez de ne pas comprendre toutes les subtilités. Enfin, en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est le milieu du spectre, donc le coffre et la présence, qui vont vous permettre de parfaitement comprendre une conversation. Pour autant, vous ne reconnaîtrez pas spécialement la voix de votre interlocuteur si vous réduisez trop la largeur du spectre. Et donc la voix des hommes, alors là ce qu'il y est représenté sur le graphique, c'est la puissance en fonction ici des donc la puissance en fonction des fréquences, mais aussi si la personne parle fort ou au contraire chuchote. Et donc là, on voit bien que la voix des hommes est beaucoup plus forte que la voix des femmes. Bon, pas certain que ce soit comme ça chez moi, mais peut-être chez vous aussi d'ailleurs. Quand ça chuchote, les voix des femmes chuchotent plus faiblement que les voix des hommes. Voilà. Mais vous remarquez que c'est quasiment ça, c'est à peu près la même forme, mais les voix des femmes sont légèrement plus hautes en fréquence, bon, ça tout le monde le sait. Là, ce que je vous ai rajouté ici, c'est le spectre 303 000. Donc toute cette partie de spectre et toute cette partie de spectre ici, qui est donc émis par la voix, finalement ne sert à rien, ne sert juste qu'à, encore une fois, reconnaître la personne. Donc pour une voix d'homme, les graves se situent vers 80 Hz, le coffre vers 300 Hz, la présence vers 2 kHz, et la sibilance vers 3-4 kHz, donc dans ce coin-là, donc en dehors du spectre. Et chez les femmes, les graves c'est 150 Hz, donc c'est encore hors spectre, le coffre vers 400-500 Hz au début, la présence vers 3000 Hz, donc c'est plutôt vers la fin, et la sibilance 5-6 kHz, donc c'est largement au-dessus du spectre. Et donc, ce que l'on a retenu pour le spectre en téléphonie, c'est donc 300 à 3000. En revanche, si vous avez déjà remarqué sur certaines radios anciennes, maintenant, en modulation d'amplitude, vous aviez deux positions, il y avait une position sélectivité et une position musicalité. Sélectivité, c'était que vous reteniez que ce spectre-là, 303 000, donc en fait, quand vous écoutez après, vous n'entendez pas éventuellement les stations qui sont juste à côté, parce que sinon vous les entendez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle sélectivité. Et musicalité, c'est que si vous n'avez pas de perturbations au-dessus ou au-dessous de la fréquence, eh bien vous vous mettez en position musicalité et donc vous ouvrez ici le spectre et donc vous avez une couleur de son qui est nettement meilleure et de toute façon vous comprenez bien quand vous parlez de sélectivité ou de musicalité. Sélectivité, vous rétrécissez le spectre. Musicalité, au contraire, vous l'ouvrez, et donc vous avez l'intégralité du spectre, tout au moins celui que vous pouvez vous entendre avec vos oreilles. Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel sur ce que l'on va chercher, nous, à récupérer comme information, et dans les microphones, et dans les haut-parleurs. Sachant que quelqu'un qui s'intéresse à de la hi-fi va pas spécialement utiliser nos appareils, parce qu'ils ne vont pas être adaptés à ses besoins. Et encore une fois, nous, nos micros, on a intérêt à bien viser le spectre 303 000. Ça ne sert à rien que le micro il monte jusqu'à 15 000 Hz, puisque de toute façon, on n'émettra pas cette fréquence-là. Donc, on va commencer par les microphones. Les microphones, c'est en fait, puisque vous savez que les sons, ce sont des vibrations de l'air, et donc ce que l'on va faire avec un microphone, c'est qu'on va transformer ces vibrations d'air en variations de grandeur électrique Donc, soit variation de tension, variation d'intensité, variation de résistance, voilà. On tourne autour de tout ça. Et donc, il y a différents types de micros. Ce que je vous ai présenté, là, c'est dans l'ordre, donc de la plus grande impédance à la plus basse impédance. D'accord ? Parce qu'après, selon le micro, comme pour les haut-parleurs d'ailleurs, tout va dépendre de l'impédance, donc du rapport de tension divisé par l'intensité que va générer le micro. Un micro-électrette, par définition, ça ne génère qu'une tension. Il n'y a pas d'intensité. Du coup, ça a une impédance qui est très élevée. Comment fonctionne un micro-électrette ? Alors là, c'est très con. Il y a une... Alors, je vais vous mettre un peu de zoom. Voilà. Un micro-électrette, ça marche justement avec un électrette qui est... ça ressemble un petit peu à un condensateur, on va dire. C'est-à-dire que ici vous avez une sorte d'isolant avec ici une plaque, et c'est cette épaisseur là qui va changer et qui finalement va générer une tension plus ou moins selon parce que plus les plaques ici se rapprochent, plus je vais avoir une tension importante. Voilà. Et donc la membrane, là, elle appuie sur un électrette, et ici, une plaque qui est polarisée. Alors, un micro-électrette ne va fonctionner qu'avec une pile. C'est le principe un petit peu du micro-électrette. Puisque ici, il faut alimenter cette plaque ici qui est polarisée. Donc ça, c'est le micro électrette, et c'est tous les petits micros qui sont tout petits, là, ça ressemble à une tête d'épingle, le truc, et c'est ce que vous allez utiliser, notamment dans les téléphones portables. Ça, c'est du micro très bas de gamme et très peu cher. Voilà. Donc ça, on va retrouver partout. Problème, c'est que c'est pas très suivi, c'est-à-dire que on sait pas trop sur quelle fréquence réellement il va bien fonctionner. On risque d'avoir des fréquences qui sont plus ou moins marquées selon la série finalement. Et c'est pas parce que vous allez prendre une référence que un autre micro de la même référence aura les mêmes caractéristiques. Ça, c'est certain, les caractéristiques seront complètement différentes de l'une à l'autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le micro-cravate, exactement. Donc ceux-là, en règle générale, c'est vraiment du bas de gamme. Et d'ailleurs, vu le prix, ça peut pas être autre chose. Un micro qui est nettement meilleur quand même, mais qui utilise finalement le même mécanisme, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a besoin d'une alimentation, et là, c'est ce qu'on appelle un micro-céramique. Et là, le micro-céramique, c'est réellement un condensateur. C'est-à-dire que ici, il y a des trous dans le micro pour que l'air passe, et que derrière... Alors pourquoi ça ne veut pas ? Si, ça y est, c'est parti. Voilà, donc ça c'est deux micros céramiques. Et donc là, ce que je fais varier, là, c'est une membrane. Ici, donc j'ai une membrane fixe et devant une membrane mobile. Et donc c'est l'épaisseur de mon condensateur là que je fais varier. Hein ? Tout à l'heure, c'était mon électrette là, qui est en fait mon isolant dont je fais varier l'épaisseur. là, l'épaisseur, c'est ici, c'est du vide hein, qu'il y a. Il y a vraiment du vide. Et donc, ce que je fais varier, là, c'est l'épaisseur de mon condensateur. Et donc, encore une fois, c'est un petit peu le même principe. Mais le micro est un peu plus gros en termes de volume. Et donc, on arrive à avoir des caractéristiques à peu près homogènes pour tous les mêmes modèles. Donc ça, c'est le micro céramique. Ensuite, il y a le micro à charbon. Alors ça, les micros à charbon, on n'utilise plus maintenant. C'est ce qu'on avait dans les vieux téléphones en bakélite. Un microphone à charbon, ça marche comment ? À l'intérieur, vous avez, donc derrière la membrane, vous avez des petits grains de charbon qui sont plus ou moins compactés quand vous parlez dedans. Et du coup, c'est ce qui va bouger là-dedans, c'est la résistance. Donc c'est vraiment un micro qu'on n'a pas, il n'y a pas d'autre équivalent, puisque là, ce que l'on fait varier, c'est la résistance du micro. Et l'impédance, c'est-à-dire sa résistance naturelle, si vous voulez, c'est de l'ordre du millier d'ohms. Voilà. C'est quasiment plus utilisé de nos jours, mais voilà, c'était un ancien système et qui marchait très bien. Alors j'en avais à un moment des océans. Le problème, c'est que quand vous l'ouvrez, il y a plein de poussière de charbon qui vous en foutez partout déjà. Et on voit rien du tout parce que c'est de la poudre qui est à l'intérieur. Donc voilà. Le microphone dynamique, ça c'est celui qui est le plus courant dans nos applications. C'est le microphone à main, hein, tout simplement. Comment ça va fonctionner ? On a une membrane. Cette membrane, elle actionne ici une bobine qui est dans un champ magnétique, dans un flux magnétique. Et donc, c'est cette bobine, quand elle bouge ici dans le champ magnétique, qui va avoir une tension qui varie. Enfin, tension et intensité, puisque on a un champ magnétique. Donc on a les deux. Et c'est pour ça qu'on a une impédance. Alors ce qui bouge beaucoup, c'est la tension. L'intensité beaucoup moins, mais on a de l'intensité là-dedans. Par rapport à mes deux premiers, là où on n'avait quasiment aucune intensité. Donc ça, c'est le plus répandu, et c'est celui qui a le meilleur rendu et dont les caractéristiques ne bougent pas d'un exemplaire à l'autre. Enfin, c'est très stable, et donc quand on donne des informations sur les fréquences qui passent, qui sont restituées, ça reste, on est à peu près certain des courbes, alors que dans le premier, là, dans l'électrète, c'est certain que c'est n'importe quoi. C'est un peu moins vrai dans le céramique, c'est beaucoup moins vrai dans le céramique. Le problème du céramique, c'est que c'est encore de la haute impédance et il y a besoin d'une pile, d'un système d'alimentation. Ça ne consomme rien, donc la pile elle est là pendant très longtemps. Par contre, il y a besoin de cet instrument, enfin, de cet accessoire pour faire marcher le micro. Et enfin, le micro à ruban, qui n'est absolument pas utilisé chez nous, c'est tous les micros que vous allez trouver dans les studios d'enregistrement. Ça. Donc, c'est de la basse impédance, il est très sensible, et il est bidirectionnel, c'est-à-dire que vous pouvez parler d'un côté ou de l'autre. Et en fait, c'est une membrane qui vibre à l'intérieur ici d'un aimant permanent. Et cette membrane, du coup, on récupère ici les tensions que l'on applique sur un transformateur et on va récupérer donc de la basse impédance. Et ça, vous allez trouver ça essentiellement, je vous dis, dans les studios d'enregistrement. Mais en tout cas, compte tenu de leur prix, et puis aussi du volume, parce que c'est des micros quand même assez volumineux, on ne va pas les trouver trop dans les stations radio. En plus, son problème, entre guillemets, c'est qu'il est bidirectionnel. Alors que nous, on a plutôt l'habitude de parler dans une direction, dans la direction du micro, et on ne veut pas récupérer ce qu'il y a derrière. Voilà pour les micros. Alors, les questions à l'examen, on va voir, ça va porter essentiellement, c'est quelle est l'impédance de, ou quelle est de tous ces micros que je, qui sont présentés, quel est celui qui est la plus forte ou la plus basse impédance. Donc, c'est essentiellement ça les questions. On les verra tout à l'heure de toute façon. Le haut-parleur, bah, ça va fonctionner à la manière inverse d'un micro, c'est-à-dire qu'au lieu de récupérer les vibrations de l'air, au contraire, on va en créer, en règle générale, soit à partir de tension ou à partir d'intensité, enfin, les deux sont liés, et donc, on va retrouver... Ah oui, j'ai oublié le schéma. Le schéma du micro, très important, dans tous les schémas après, quand on va voir les synoptiques, le micro est représenté de cette manière-là. Donc quand vous voyez un micro, il y a de très fortes chances que ce soit un émetteur. Et si vous voyez ici un haut-parleur, bah, ça risque d'être un récepteur. Hein, évidemment. Donc mon haut-parleur qui a voilà la forme d'un haut-parleur électrodynamique. Donc le haut-parleur électrodynamique, c'est celui qui est finalement le plus répandu et pas seulement dans le monde de la radio, il est répandu partout. Donc c'est un aimant qui est donc lié ici à une membrane, et autour de l'aimant on a une bobine, et c'est le courant qui passe dans la bobine qui fait avancer ou reculer l'aimant, et donc avancer ou reculer ici la membrane, tout simplement. Voilà, donc on a un châssis, et puis on a aussi des bornes de connexion ici qui sont prises dans la membrane en fait, puisque ici on a ici une carcasse autour, hein, une carcasse en fer doux, et donc l'aimant ici est vraiment noyé dans cette carcasse en fer doux et est très mobile, et donc la moindre petite sollicitation comme un courant qui passe dans la bobine, va faire varier la position de l'aimant, et donc la position de la membrane, et donc ça va faire vibrer l'air au rythme du courant qui passe dans la bobine. Donc ça, c'est le principe général, et qu'on va dupliquer après sur les différents haut-parleurs. Alors l'impédance de ce haut-parleur électrodynamique, c'est de l'ordre de 10 ohms. Alors il y en a des 8 ohms, il y en a des 4 ohms, voilà, mais c'est l'ordre d'idée, voilà, et c'est celui qui est le plus utilisé, entre guillemets, voilà. Les autres haut-parleurs, c'est, alors on a l'électrostatique, en fait, il est utilisé essentiellement dans les casques. Alors, pas les oreillettes, mais les casques. Et donc, ça ressemble un petit peu au micro ici céramique. C'est donc, on utilise un effet électrostatique, Et donc ici, ça va être deux plaques ici qui vont bouger, donc les plaques du condensateur, qui vont bouger en fonction de la tension qu'on met dessus. Hein. Donc finalement, on va retrouver un peu les mêmes systèmes de restitution de son que ce que l'on a vu dans le cas des micros. Donc c'est un système qui est très directif, ça ne va que dans un sens. C'est peu puissant, c'est pour ça que c'est utilisé dans les casques, parce qu'il n'y a pas besoin de puissance. Et son impédance, en revanche, est très élevée, puisque c'est un condensateur. Et un condensateur, par nature, n'a pas d'intensité. Et donc, il n'y a que de la tension. Donc, il faut l'alimenter avec une impédance élevée. Alors, vous inquiétez pas, dans les casques, il y a tout un système. Il y a un petit transfo qui permet de passer du 8 ohms, puisque la plupart du temps, les impédances de sortie de tous nos appareils, c'est 8 ohms, le standard. Et donc, dans les casques, il y a un petit transfo qui transforme l'impédance, donc les 8 ohms qui sont d'alimentation, qui permettent de... d'alimenter correctement le haut-parleur qu'il y a dans le haut-parleur électrostatique qu'il y a dans les casques. Piézoélectrique, eh bien en fait ça va marcher comme un électrète, c'est-à-dire que alors que veut dire piézoélectrique déjà? Piézo, ça vient du grec qui est piécène en grec, ça veut dire presser. Et donc, quand on presse sur ce genre de matière, ça génère une tension. Inversement, si on met une tension dessus, une tension positive, ça gonfle, et si on met une tension négative, ça se rétracte. Donc, on voit bien que ce système-là, ça permet donc de faire marcher un haut-parleur, puisque c'est ces matières, donc ce sont des polymères, un peu particulier, enfin bon, voilà, qui réagissent finalement à la tension qu'on met dessus. Hein? Si c'est une tension positive, ça gonfle, si c'est une tension négative, ça se rétracte. Et donc, il suffit de mettre une tension dessus, alternative, puisque le courant BF par nature est alternatif, tout au moins alternatif au sens sinusoïdal, mais alternatif au sens parce que ça change de sens, pas régulièrement, mais ça change de sens. L'épaisseur de votre matière piézoélectrique, elle bouge en fonction de la tension que vous lui mettez dessus. Et donc, ce système est utilisé essentiellement dans les oreillettes. Puisque une oreillette, il y a besoin d'une toute petite morceau de matière, et c'est il n'y a pas non plus besoin d'avoir une puissance extraordinaire, et donc c'est adapté aux oreillettes. Voilà. Donc ça s'appelle des haut-parleurs piézoélectriques. Vous avez aussi le haut-parleur à ruban, comme vous aviez eu le micro à ruban. Vous avez des haut-parleurs à ruban. Alors, ceux-là sont essentiellement utilisés en Hi-Fi. Pourquoi? C'est que les haut-parleurs à ruban, alors si vous avez des caissons de haut-parleurs Hi-Fi, vous allez sûrement avoir le tweeter qui ressemble à un truc avec une fente au milieu. Et donc ce truc avec une fente au milieu, c'est donc un haut-parleur à ruban, ça, parce que le haut-parleur à ruban monte très haut, alors est très mauvais dans les basses fréquences, mais monte très haut en fréquence. Et donc, c'est comme ça que vous allez, c'est dans ce cadre-là que vous allez les retrouver dans les tweeters, dans les chaînes Hi-Fi. Et enfin, les haut-parleurs ioniques. Alors, j'en ai vu un une fois. C'est un truc un peu bizarre. Ça fait des étincelles un petit peu. C'est ces étincelles qui font vibrer l'air. Donc, ça ressemble à une bobine. Avec un fil au-dessus qui crée des étincelles, et ces étincelles font pas de grésillement, mais c'est elles qui font vibrer l'air. Donc voilà. Alors c'est peu répandu, c'est pas spécialement très, moi ce que j'avais vu c'était pas très cher, mais la qualité audio elle était pas au rendez-vous. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle aussi des haut-parleurs à plasma. Mais peut-être que ce que j'ai vu c'était un exemplaire, c'était plus une adaptation du haut-parleur ionique dont on nous rebat les oreilles en disant que c'est la panacée. Moi, ce que j'ai vu, ça m'a pas vraiment marqué. On va se passer à la webcam et je vais vous faire l'autopsie d'un petit haut-parleur que j'ai. Alors, mon petit haut-parleur qui est là. Il y a marqué dessus 8 ohms, comme vous voyez. Alors, je vais le mettre un peu plus gros, voilà. Donc, alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté, comme toujours, à la sauvage, c'est-à-dire que j'ai mis un trait de scie ici pour le... Au début, je voulais que le système reste complet. Et finalement, quand j'ai mis mon trait de scie, ça s'est démonté, c'est-à-dire que la partie que je voulais qu'il reste, celle-là, que je voulais qu'il reste ici sur la carcasse, elle est sertie. Je pensais qu'elle était soudée, et en fait, elle est sertie. Et donc, elle s'est démontée. Et donc, voilà. Donc, j'ai plus que mon système. Alors, ça, c'est du fer doux, que j'ai ici. Et donc, mon aimant, il est là. Ici, c'est mon aimant. Un aimant permanent, évidemment. Qui est... Alors, en l'occurrence, il devait être, je suppose, collé ou vraiment bien attaché à la membrane. La membrane, elle est là. Ici, vous avez les deux fils. Hop. Les deux fils là qui rentrent après à l'intérieur du haut-parleur. Et on voit ici, là, il y a le début de la bobine à l'intérieur. On la revoit ici. Là, je retire mon aimant et on voit ici à la bobine. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Ici, il y a la bobine. Donc, voilà. Donc, cette bobine. Donc, je remets mon aimant. Cette bobine, c'est elle qui va faire bouger l'aimant, puisque l'aimant, lui, il est coincé dans cette carcasse, ici, en fer doux. D'ailleurs, si je le rapproche un peu trop violemment, vous allez voir, ça reste collé. Donc il faut absolument que ce soit bien au milieu, et que l'aimant soit vraiment mobile à l'intérieur, ici, de ma carcasse en fer doux. Voilà mon petit haut-parleur. Je reviens sur mon PDF. Alors, mes relais électromécaniques. Alors, en fait, c'est la dernière, parce que je ne savais pas trop où mettre ce composant-là. Comme je ne savais pas trop où le mettre, je l'ai mis avec mes... ça n'a strictement rien à voir, on est bien d'accord, mais je l'ai mis là parce que je ne savais pas où le mettre. Donc je vais vous montrer différents relais. Déjà, je vous explique comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est un commutateur à commande électrique. En fait, j'ai deux positions. Alors j'ai une bobine qui va me permettre ici de faire coller mon relais justement, et un ressort qui va me permettre de le faire décoller lorsque je n'ai pas de courant dans ma bobine. C'est un peu le même principe que le galvanomètre. J'ai un ressort qui me permet de revenir à la position initiale. Lorsque je n'ai pas de courant dans ma bobine, ici, mon relais est en position repos. Et lorsque j'alimente ma bobine, ça fait coller mon relais, et donc ici, la lame ici de mon relais passe sur le côté T de travail. Donc voilà, donc un relais, il n'y a que deux positions, soit c'est relais ou travail, mais pas, ça ne peut pas être entre les deux. C'est relais ou travail, et c'est tout. Donc c'est assez binaire. Donc il y a un électroaimant, et puis ce fameux mécanisme-là qui permet de passer d'un contact à l'autre. Évidemment, ces contacts, tant qu'à faire, il ne faut pas qu'ils soient oxydés, parce que si c'est oxydé et qu'il y a beaucoup de courant qui passe dedans, bah c'est sûr qu'on va perdre, puisque si c'est oxydé, ça va avoir une plus forte résistance, et donc ça va limiter sûrement le courant qui passe dans mon relais. Donc là, je n'ai évidemment dans mon relais, là, je n'ai qu'un seul contact repos-travail, mais je peux en avoir autant que je veux, hein. Alors, je vais vous présenter à ma webcam là, les relais que je vous ai mis en photo. Alors, le relais, le voilà. Donc ça, c'est un relais. Je vais le présenter comme ça. On voit mieux là comment ça fonctionne. Ici, j'ai ma bobine. Et le fait de mettre une tension sur ma bobine, en fait, ça va faire coller mon relais. Donc, ça va appuyer ici. Hein, puisque ici, là, j'ai un barreau métallique, ici, là. Ici. Et lorsque je mets du courant ici dans ma bobine, ça va amener ici, cette partie-là, sur la bobine. Et donc, on voit bien que je passe d'un contact à l'autre. Hein, ici, je suis en contact travail, ici, je suis en contact repos. Et vous remarquez que, ici, donc, j'ai un contact là, j'ai un autre contact là, qui ne marche que en travail, celui-là, je n'ai pas de contact repos, donc il marche qu'en travail, et celui-là, il marche, je ne sais plus comment, à l'envers, non, à l'endroit. Donc j'ai un contact repos-travail. Donc là, j'ai deux repos-travail, et là, j'ai juste un contact-travail. Voilà, je peux aussi vous le montrer comme ça. Je ne sais pas si c'est bon comme ça. Si vous le voyez. Voilà. Et évidemment, ici, il y a une tension qu'il faut respecter. Alors, je ne sais pas, c'est marqué dessus, il y a marqué, voilà, c'est du 24 volts. Il faut du 24 volts DC, donc continu. Et donc la résistance, elle fait 280 ohms. Et le contact, il est prévu ampère 10 ampères 115 volts. Voilà, c'est marqué dessus, comme le port salut. Qu'est-ce qu'on a là? Peut-être le fabricant. Voilà, c'est le fabricant qui est marqué là. Donc ça, c'est un assez gros relais. Un deuxième relais ici. Alors, les relais, la plupart du temps, sont dans un boîtier en plastique, bah justement pour éviter que, d'une part, ils se prennent des chocs, et d'autre part, que les contacts s'oxydent à l'humidité. Donc la plupart du temps, ils sont montés dans un boîtier, et quand on retire le boîtier, voilà, on arrive à ça. Et encore une fois, là, il y a la bobine. Donc le contact, il se fait où là-dedans? Il se fait où? Qu'est-ce qui bouge? Voilà, alors c'est ça qui bouge. Donc il y a un truc avec... Ah oui, ça y est, je vois. La barre de ferraille, elle est en dessous là. Elle est là. Donc en fait, c'est ça qui se passe. C'est que j'appuie ici. Voilà. Quand je fais le contact là, ça appuie là, et le fait d'appuyer là, ça renvoie ici sur les contacts. Voilà comment ça fonctionne. Et donc là, j'ai combien de contacts? J'en ai 1, 2, 4. 4 pots de travail. Voilà. Et ici, donc, je récupère ici les côté-là. Ah ben non, j'en ai aussi là-dedans. Ah non, 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 j'ai 4 pots de travail, c'est tout. Il n'y a pas la tension. Je la vois pas. Vous cherchez sur le site du constructeur après, et il y a ici la petite vis qui permet de tenir l'ensemble sur le circuit éventuellement. Voilà, on revient sur le PDF. Donc il n'y a pas de questions sur les relais, hein, j'en ai jamais vu. Je vois pas d'ailleurs ce qu'on pourrait poser comme question, mais autant que vous sachiez ce que c'est et l'avoir vu au moins une fois. Et avoir au moins le vocabulaire de dire repos, travail, coller ou pas coller. Voilà, coller, ça veut dire qu'on a mis une tension sur la bobine qui fait coller la partie métallique et donc qui passe en position travail. Voilà, et donc ce sont les lames qui passent d'un contact à l'autre. Alors, dernier point, mais ça encore une fois, c'est des composants dont on ne parle pas à l'examen, ce sont les circulateurs. Les circulateurs sont beaucoup utilisés de nos jours pour tout ce qui est... c'est dans les relais de téléphonie mobile qu'on va les utiliser. Un circulateur, c'est quelque chose où l'énergie... Alors déjà, c'est formé essentiellement de ferrite et d'aimant. Donc il y a trois positions, comme ici, il y a trois positions. Et le courant, l'énergie... circule dans un sens uniquement, soit de 1 vers 2, ou de 2 vers 3, ou de 3 vers 1, mais jamais de 1 vers 3, ou de 2 vers 1. C'est toujours dans le même sens. Et donc ces circulateurs, ça va permettre de coupler finalement des émetteurs et des récepteurs. Pourquoi ? C'est que l'émetteur, je vais le mettre sur le 1 et l'antenne ici sur le 2, si bien que quand je suis en réception, eh bien le courant va arriver sur le 2 et va être envoyé ici sur le récepteur qui est sur le 3. Et donc le récepteur va être protégé, entre guillemets, puisque le courant ne passe pas dans ce sens-là, ou tout au moins très mal. Donc il y a plein de circuits qui sont comme ça utilisés à partir de circulateurs. Et donc, voilà, vous allez en... Et un circulateur, c'est prévu pour fonctionner sur une fréquence. En règle générale, d'ailleurs c'est indiqué sur la référence, voilà. Par exemple, celui-là, il fonctionne, il y a marqué dessus, de 2110 à 2170 mégas. Alors, on va regarder. Voilà, 2170 mégas. Donc, ce qui veut dire qu'il a une bande passante, grosso modo, de 3%. On va dire simple. Et voilà comment ça fonctionne. Et encore une fois, il n'y a pas de question à l'examen dessus, mais voilà, si vous entendez parler un jour de circulateur, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est juste une sorte de système qui dirige un courant dans une direction. En fait, ça tourne en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un circulateur. Et ça ne tourne que dans un sens. Encore une fois, pas de questions à l'examen dessus, c'est du plus. Les questions à l'examen maintenant. Alors, quelques questions sur les voltmètres. Alors, pas de question directement sur le calcul de la résistance en série d'un voltmètre, mais par contre des ordres de grandeur. Et donc là, quand on parle de l'ordre de grandeur de la résistance du voltmètre, bah, il faut avoir ici, pour éviter, puisque là j'ai 1 kilo ohm et 5 milliampères, il faut que je fasse en sorte de ne pas bouger ici la valeur de cette intensité. Et donc ici, il faut que j'ai une résistance très importante pour ne pas perturber la lecture. Parce que si je mets une très faible résistance, eh bien je suis certain que mon intensité ici, dans ma résistance de 1 kΩ, va s'écrouler, et donc toute l'intensité va passer ici dans mon voltmètre. Donc ça, c'est quand même très con, parce que du coup, non seulement ça perturbe le circuit, mais en plus je suis certain de lire n'importe quoi. Et donc, et ça c'était encore une question que j'ai vue encore très récemment. Et donc la seule bonne réponse, c'est 100 kΩ, et je dirais que c'est même limite pas suffisant. Voilà, puisque toutes les autres sont systématiquement, même avec 1 kΩ, eh ben on va avoir ici la moitié ici de l'intensité, donc au lieu des 2,5 mA, ici on va avoir les 5 mA ici, on est certain si ici on a un voltmètre qui fait 1 kΩ, on va avoir 2,5 mA qui va passer dans la résistance et 2,5 mA qui vont passer dans le voltmètre. Et on aura tout gagné, on aura perturbé le circuit et donc on n'est pas certain d'avoir mesuré la bonne valeur. Et de toute façon, les voltmètres ont toujours largement plus de 1 kΩ de résistance. Et ce dont on parle là, c'est la résistance du voltmètre, hein, pas la résistance interne du galvanomètre. Hein, c'est vraiment le voltmètre. Et donc ce voltmètre, il a plutôt des valeurs, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, des 20 000 ohms par volt. Là, il n'y a pas la tension, mais voilà. Donc il faut avoir une valeur importante. Puisque la question, c'est pas une question de précision, c'est l'ordre de grandeur de cette résistance. Donc l'ordre de grandeur, c'est une très grande valeur. Ici, on demande la résistance interne de l'ampèremètre. Alors c'est là que c'est un petit peu tordu, parce que on a un schéma comme ça avec une résistance, et on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Donc là, l'ampèremètre, c'est cet élément-là. Et donc, la résistance interne de l'ampèremètre, à l'inverse, elle doit être la plus faible possible, puisque je dois faire en sorte de ne pas perturber mon circuit. C'est-à-dire que si j'ai une résistance interne qui est trop élevée, automatiquement, elle va me générer une tension aux bornes de mon ampèremètre. Et donc, ça va me poser des problèmes. Donc, j'ai intérêt, au contraire, dans le cas de l'ampèremètre, à avoir la résistance interne la plus faible possible. C'est-à-dire que pour mesurer ici l'intensité dans ma résistance de 10 ohms, et bien j'ai intérêt à avoir la résistance interne la plus faible possible, et donc c'est 0,1 ohm, puisque 0,5 kΩ c'est 50 ohms, 100 ohms et 10 ohms, et c'est largement trop, c'est-à-dire que ça va automatiquement perturber tout mon système autour de cette résistance-là. Puisque je vais avoir une résistance plus importante, et par conséquent, je vais limiter la l'intensité dans ma résistance. Donc, moralité, je ne vais pas mesurer l'intensité, parce que l'idée quand même d'un ampèremètre, c'est de mesurer quelque chose et sans perturber le circuit. Donc, pour le voltmètre avoir la résistance interne la plus forte possible, et pour l'ampèremètre avoir la résistance interne la plus faible possible. La seule question avec laquelle on va avoir besoin de la loi d'Ohm, c'est cette troisième question, et là on demande la valeur du shunt. Donc ici on a 4 ampères de calibre, 0,4 ampères ici de l'intensité de mon galvanomètre, qui entre parenthèses est assez pourri, enfin bon, peu importe. Et donc, combien, quelle est la valeur ici du shunt? Donc ici, entre 4 ampères et 0,4 milliampères, ici j'ai 10 000 de rapport, donc ma résistance du shunt sera 10 000 fois plus faible que mes 800 ohms. Donc si je ne suis pas certain, eh ben, j'utilise ma calculette. Mais 800 divisé par 10 000, ça me fait 0,08. Et évidemment, vous avez que des 8, mais voilà, faut pas se planter dans le nombre de zéros qu'il faut utiliser. Et donc, c'est 0,08 ohms, cette valeur de shunt. Alors, plus précisément, un tout petit peu au-dessus, puisque, encore une fois, il y a une partie de l'intensité qui va passer ici dans le galvanomètre, alors que quand on a fait notre raisonnement tout à l'heure, on a dit que c'était 10 000 fois plus important. En fait, c'est 9999 fois plus important. Donc faire 9999 multiplié par 800, 800 divisé par 9999, et donc à quelque chose près, on va retomber sur nos 0,08 avec plein de chiffres derrière, mais peu importe. Donc ça, je vous l'ai fait méthode empirique, et puis vous pouvez le faire aussi méthode loi d'Ohm, c'est-à-dire que là, vous calculez la tension sur votre galvanomètre, donc R est égal à, U est égal à R fois I, donc 800 ohms multiplié par 0,4 milliampères, ça vous donne une tension, que vous divisez par 4 ohms. Par 4 ampères, puisque R est égal à U sur I. Et donc vous retombez aussi sur vos 0,08. Voilà les réponses, rien de particulier. Autre question, et ça on en a parlé quand on a fait la qualité des voltmètres. Donc, quelle est la valeur de R à mettre en série avec un voltmètre calibré à 100 volts de 2000 ohms par volt pour obtenir un voltmètre dont le calibre est de 500 volts. Donc, j'ai 400 volts supplémentaires à 2000 ohms par volt. Donc, je fais 400 fois 2000. Donc 400 fois 2000, ça me fait 800 000. Et 800 000, c'est 0,8 mégaohms. Alors, pas de questions recensées sur les wattmètres et les ohmmètres, c'est ce dont on a parlé, non plus d'ailleurs sur les relais ni sur les circulateurs. Voilà, et une question qui est assez récurrente, qu'on retrouve assez régulièrement. Quel haut-parleur a une impédance élevée? Alors, est-ce que c'est l'électrostatique? Est-ce que c'est l'électrodynamique? Est-ce que c'est le dynamique ou aucun? Alors, le haut-parleur dynamique n'existe pas, c'est l'électrodynamique qui existe, et celui qui a l'impédance la plus élevée, c'est l'électrostatique. Donc, c'est la première réponse. Voilà, petit montage de la soirée, parce qu'il se fait déjà tard. Petit montage de la soirée, donc là je vous ai préparé un montage avec une pile. Alors, on va prendre un peu de hauteur avec la webcam, que je vous montre l'ensemble du schéma. Déjà je vous présente le schéma. L'idée là c'est de vous montrer avec un galvanomètre vraiment de piètre qualité. Son incidence sur la lecture de la tension d'un circuit. Donc ici, j'ai un circuit, j'ai une pile de 9 volts, avec deux résistances qui font 5,6 kΩ, enfin pas exactement, mais en théorie, entre les deux, là, je dois avoir la moitié de la tension de ma pile, donc grosso modo 4,5 volts. Et on va voir que lorsque j'introduis ici mon voltmètre que j'ai construit à partir de ce système-là, eh bien je vais complètement me tromper de valeur et donc changer le comportement de mon circuit. Alors, je viens sur la webcam. Hop, je vais peut-être faire une mise au point parce que, comme je suis plus haut, ah non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Hop, alors je vous présente mon matériel, ma petite pile. Ici, le galvanomètre. Alors, je vais le mettre en dessous pour qu'on voit bien l'aiguille qui bouge. Hop, vas-y. Ça bouge. Ah non, c'est bien, il reste en place. Ah, par contre, il y a un reflet. C'est pas top. Si je fais ça... C'est encore pire. Bon, si je fais ça, ça va mieux, super, et j'ai pas perdu ma mise au point. Donc ici mes deux résistances de 5,6 kΩ, ici une résistance, alors je vais vous montrer. Là, lorsque je mets cette résistance là, en fait, c'est ma résistance qui va me permettre de faire en sorte que je mesure bien la tension de la pile. Donc, ici, j'ai une résistance qui fait 22 kΩ. Je mets ma pile, et voilà, mon galvanomètre, il est peut-être pas à fond de cale, mais il est pas mal. Si je pousse ça, ça ira mieux. Ça sera plus visible, voilà. Donc il n'est pas à fond de cale, mais voilà, on va dire il est au maximum de son de sa valeur. Pour faire simple, donc il a son intensité de déviation maximum. Donc voilà. Ici, alors je vais mettre mon voltmètre, le voltmètre qui est passé où ? Qui est passé là ? Alors, le voltmètre, est-ce que j'ai la place de le mettre ? Pas vraiment. On va retirer la calculette. On va mettre le voltmètre à la place. Et là, ce que je vais mesurer, là, c'est la tension qu'il y a alors, entre ici et ici. Alors, je le passe de l'autre côté pour pouvoir passer ici ma résistance. Donc, je mesure ici ma tension. Je me mets évidemment 4 volts 24, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 1, ma pile, elle commence à être un peu secouée, donc elle ne doit plus faire ses 9 volts. Et 2, mes résistances ne sont pas strictement égales. Et donc c'est pour ça que j'ai pas exactement la moitié de mes 9 volts, donc 4,5 volts. Lorsque je vais ici mettre mon, mesurer ma tension avec mon, avec mon voltmètre. Alors, hop. Ici, vas-y mon pépère. Voilà. Alors, pourquoi il n'a pas voulu? Pourquoi il ne bouge plus, lui? Hein, il est un peu fatigué. Voilà. Donc là, ça bouge un peu, voilà. Oula, il commence à être aussi fatigué, il est comme moi. En fait, c'est que l'aiguille, elle frotte contre le cadre derrière, là. Et donc, du coup, c'est ce qui... Voilà. C'est ce qui fait que la lecture elle est un peu faussée. Mais vous voyez que tout à l'heure là, j'avais 4,25 V. Maintenant, lorsque j'introduis mon voltmètre, je n'ai plus que 3,80 V. 3,79 V. Donc ça veut dire que mon galvanomètre là, qui est pourri de chez pourri, hein, évidemment, vient perturber la lecture de mon circuit, et au lieu de lire 4,25 V, et ben il lit moins. Et d'ailleurs, il n'est pas au milieu ici de la plage de lecture comme il devrait l'être. Il est en dessous puisqu'il n'y a que 3,80 V. Donc voilà l'explication. Et si on veut avoir plus de détails sur le calcul, dans ce cas-là, je reviens sur mon PDF. Et là, je vous ai mis tout le détail du calcul. Alors, ma résistance qui soit sur le dessus, il y a marqué 24 kilo-ohms. En fait, elle fait 24,95 précisément. Et enfin, c'est une 22 kilo-ohms quand je l'avais mis au à l'ohmmètre. En fait, elle fait plus 24,95. Alors, plutôt, c'est que je dois avoir la résistance de la résistance interne qui s'additionne, et donc l'ensemble fait 24,95 kilo-ohms. Je reviens sur mon PDF noir. Voilà, donc là je suis à 24,95, donc là, en termes d'ohms par volt de qualité, je suis à 2,77 kilo-ohms par volt, c'est-à-dire que l'intensité de déviation maximum, c'est 0,361 mA. Donc on voit bien que c'est un appareil, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était plutôt, donc ça fait 361 microampères, par rapport à des 20 ou à des 50 microampères, qui sont 20 microampères, c'est des très bons, les 50 microampères, ça commence à être du matériel intéressant. On est très loin, et c'est pour ça que mon matériel est relativement pourri. Et donc l'incidence, quand on le fait de manière mathématique, comme j'ai essayé de le faire ici, eh bien on arrive à non pas 4,5, puisque moi je devais tomber à 4,5, mais on arrive à 4,05. Alors mais évidemment, on était parti de 4,25, hein, donc c'est pour ça que j'ai encore moins, mais c'est tout reste proportionnel, quoi. Donc voilà. Oui, alors précisément, ma résistance ici, elle fait 23,8 kilo-ohms. Hein, quand je l'ai mesuré ici à l'ohmmètre, elle fait 23,8. Et lorsque je rajoute ici mon galvanomètre, en tout, ça fait 24,95. Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi mon mon voltmètre a faussé la lecture, puisque le facteur Q n'était pas adapté. Voilà, bah comme j'ai plus de voix, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.